Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir, nous revoici donc pour le roman de Patrick Modiano, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. Puis, Daragan et le docteur marchèrent en silence. L'un et l'autre, le docteur très droit, très raide, l'allure d'un ancien officier de cavalerie. Daragan ne se souvenait pas d'avoir marché ainsi la nuit dans son enfance, par les rues de Saint-Leu-la-Forêt. Sauf une fois, à Noël, quand Anil l'avait emmené à la messe de minuit. Le car attendait, le moteur en marche. Apparemment, il serait le seul passager. « J'ai été ravi de bavarder tout l'après-midi avec vous, » dit le docteur en lui tendant la main. « Et j'aimerais avoir des nouvelles de votre petit livre sur Saint-Leu. » À l'instant où il allait monter dans le car, le docteur le retint par le bras. « Je pensais à quelque chose, au sujet de la maladrerie et de tous ces drôles de gens dont nous avons parlé. Le meilleur témoin, ce pourrait être l'enfant qui habitait là-bas. Il faudrait le retrouver, vous ne croyez pas ? Ce sera très difficile, docteur. » Il s'assit tout au fond du car et regarda à travers la vitre derrière lui. Le docteur Voustrat était immobile, là-bas, et attendait sans doute que le car disparût au premier tournant. Il lui faisait un signe de la main. Dans son bureau, il s'était résolu à rebrancher le téléphone et le répondeur, au cas où Chantal grippait, essaierait de le joindre. Mais sans doute Ottolini, de retour du casino de Charbonnières, ne la quittait pas d'une semelle. Il faudrait qu'elle récupère la robe noire aux hirondelles. Elle pendait là, sur le dossier du canapé, comme ces objets qui ne veulent pas vous quitter et vous poursuivent toute votre vie. Ainsi, cette Volkswagen bleue de sa jeunesse dont il avait dû se débarrasser au bout de quelques années. Pourtant, chaque fois qu'il changeait de domicile, il la retrouvait garée devant son immeuble et cela avait duré longtemps. Elle lui restait fidèle et le suivait partout où il allait. Mais il avait perdu les clés. Et puis un jour, elle avait disparu peut-être dans l'un de ces cimetières de voitures, après la porte d'Italie, sur l'emplacement desquels on avait commencé à tracer l'autoroute du Sud. Il aurait voulu retrouver « Retour à Saint-Leu-la-Forêt », le premier chapitre de son livre. Mais sa recherche aurait été vaine. Cette nuit, tandis qu'il contemplait le feuillage du charme dans la cour de l'immeuble voisin, il se disait qu'il avait déchiré ce chapitre, il en était sûr. Il avait aussi supprimé un second chapitre, Place Blanche, écrit dans la foulée de Retour à Saint-Leu-la-Forêt. Ainsi avait-il tout repris depuis le début avec la sensation pénible de corriger un faux départ. Et pourtant, les seuls souvenirs qu'il gardait de ce premier roman, c'étaient les deux chapitres supprimés qui avaient servi de pilotis à tout le reste, ou plutôt d'échafaudage que l'on enlève une fois le livre terminé. Il avait rédigé les 20 pages de Place Blanche dans une chambre au 11 de la rue Coustou, un ancien hôtel. Il habitait de nouveau le bas de Montmartre, 15 ans après l'avoir découvert à cause d'Annie. En effet, ils avaient échoué là, quand ils avaient quitté Saint-Leu-la-Forêt. Et c'est pourquoi il pensait qu'il écrirait plus facilement un livre s'il revenait sur les lieux qu'il avait connus avec elle. Ils avaient dû changer d'aspect depuis ce temps-là, mais ils s'en apercevaient à peine. 40 ans plus tard, au XXIe siècle, un après-midi, en taxi, il traversait par hasard le quartier. La voiture s'était arrêtée dans un embouteillage au coin du boulevard de Clichy et de la rue Coustou. Pendant quelques minutes, il n'avait rien reconnu, comme s'il avait été frappé d'amnésie et qu'il n'était plus qu'un étranger dans sa propre ville. Mais pour lui, cela n'avait aucune importance. Les façades d'immeubles et les carrefours étaient devenus au fil des années un paysage intérieur qui avait fini par recouvrir le Paris trop lisse et empaillé du présent. Il crut voir là-bas, à droite, l'enseigne du garage de la rue Coustou et il aurait volontiers demandé au chauffeur de taxi de le laisser là pour qu'il puisse rentrer après 40 ans dans son ancienne chambre. En ce temps-là, à l'étage au-dessus du sien, on commençait les travaux qui transformeraient les vieilles chambres d'hôtel en studio. Pour écrire son livre sans entendre les coups de marteau contre les murs, il se réfugiait dans un café de la rue Puget qui faisait l'angle avec la rue Coustou et sur lequel donnait la fenêtre de sa chambre. L'après-midi, il n'y avait aucun client dans cet établissement nommé l'Aéro. Un bar plutôt qu'un café, si l'on en jugeait par ses boiseries claires, son plafond à caissons, sa façade de bois clair, elle aussi, avec un vitrail, protégé par une sorte de moucharabie. Un homme brun d'une quarantaine d'années se tenait derrière le comptoir et lisait un journal. Au cours de l'après-midi, il lui arrivait de disparaître par un petit escalier. La première fois, Daragan l'avait appelé en vain pour régler sa consommation. Et puis, il s'était habitué à ses absences et il lui laissait un billet de 5 francs sur la table. Il dut attendre quelques jours avant que l'homme lui adressât la parole. Jusque-là, celui-ci l'ignorait délibérément. Chaque fois que Daragan lui commandait un café, l'autre paraissait ne pas l'entendre. Et Daragan était étonné qu'il finisse par mettre en marche le percolateur. Il venait poser la tasse de café sur la table, sans lui jeter le moindre regard. Et Daragan s'asseyait au fond de la salle, comme si lui-même voulait se faire oublier. Un après-midi qu'il achevait de corriger une page de son manuscrit, il entendit une voix grave. « Alors, vous faites vos comptes ?» Il leva la tête. Là-bas, derrière le zinc, l'autre lui lançait un sourire. « Vous venez à la mauvaise heure. L'après-midi, c'est le désert ici. » Il marchait vers sa table, toujours avec ce sourire ironique. « Vous permettez ?» Il tira la chaise et s'assit en face de lui. « Vous écrivez quoi, au juste ?» Daragan hésitait à répondre. « Un roman policier. » L'autre hochait la tête en le fixant d'un œil lourd. « J'habite l'immeuble du coin, mais ils font des travaux et il y a trop de bruit pour pouvoir travailler. » « L'ancien hôtel Puget, en face le garage ?» « Oui, » dit Daragan. « Et vous, vous êtes ici depuis longtemps ?» Il avait l'habitude de dévier la conversation pour éviter de parler de lui. Sa méthode, c'était de répondre à une question par une autre question. « Moi, j'ai toujours été dans le quartier. Avant, je m'occupais d'un hôtel un peu plus bas, rue La Ferrière. » Ce mot, « La Ferrière », lui fit battre le cœur. Quand il avait quitté avec Annie Saint-Leu-la-Forêt pour venir dans ce quartier, ils habitaient tous les deux une chambre, rue Laferrière. Elle s'absentait de temps en temps et elle lui donnait un double de la clé. « Si tu vas te promener, ne te perds pas. » Sur une feuille de papier pliée en quatre qu'il gardait dans sa poche, elle avait écrit « 6 rue Laferrière » de sa grande écriture. « J'ai connu une femme qui habitait là, » dit Daragan d'une voix blanche, « Annie Astran. » L'homme le regardait d'un air surpris. « Bah alors, vous deviez être vraiment très jeune, cela remonte à une vingtaine d'années. »« Moi, je dirais plutôt 15. » J'ai surtout connu son frère, Pierre. C'est lui qui habitait rue Laferrière. Il s'occupait du garage d'à côté. Mais je n'ai plus de nouvelles de lui depuis longtemps.
Vous vous souvenez d'elle ?
Un peu. Elle a quitté très jeune le quartier. D'après ce que m'avait dit Pierre, elle était protégée par une femme qui tenait une boîte de nuit, rue de Ponthieu. Daragan se demanda s'il ne confondait pas Annie avec une autre. Pourtant, une amie à elle, Colette, venait souvent à Saint-Leu-la-Forêt, et un jour, il l'avait ramenée en voiture à Paris, dans une rue proche des jardins des Champs-Élysées, où se tenait le marché aux timbres, la rue de Ponthieu. Elles étaient entrées toutes les deux dans un immeuble. Et lui, il avait attendu Annie sur la banquette arrière de la voiture.
C'est le soir où, près du métro, nous avons croisé Modiano. Le soir où tu ne voulais pas croire que c'était lui sur le trottoir. Le soir où j'avais dit, tu vois, la fille juste en face du tabac. Tu vois le type derrière, de dos, en imper gris, c'est Modiano. C'est le soir où nous avons pris des mojitos jusqu'à minuit. Le soir où tu as répété, peut-être il habite le quartier. Le soir où nous sommes revenus en dévisageant toute la rue, en cherchant derrière les carreaux. L'ombre chinoise de Modiano. Appuyant sur le champ lexical de l'enfermement, vous soulignerez la terreur dans le regard du narrateur, dans les pages cornées d'un folio. Voyage de noces de Modiano. Et le baiser qui a suivi, sous les réverbères, sous la pluie, devant les grilles du square Carpo. Et le baiser qui a suivi, sous les réverbères, sous la pluie, devant les grilles du square Carpo. Je l'appelle Patrick Modiano.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Retour au texte de Modiano après la pause musicale. Vous ne savez pas ce qu'elle est devenue ? L'homme le regardait avec une certaine méfiance. Non ? Pourquoi ? Elle était vraiment une amie à vous ?
Je l'ai connue dans mon enfance.
Alors ça change tout, il y a prescription. Il avait retrouvé son sourire et il se penchait vers Daragan.
Dans le temps, Pierre m'a expliqué qu'elle avait eu des ennuis et qu'elle avait fait de la prison.
Il lui avait dit la même phrase que Perrin de Lala, un soir du mois précédent où il l'avait rencontrée assise seule sur une terrasse.
Elle avait fait de la prison.
Le ton de chacun des deux hommes était différent. Une distance un peu méprisante chez Perrin de Lala, comme si Daragan l'avait contraint de parler d'une personne qui n'était pas de son monde. Une sorte de familiarité chez l'autre, puisqu'il connaissait son frère Pierre. Et que faire de la prison semblait être pour lui quelque chose de banal.
À cause de certains de ses clients qui venaient, avait-il expliqué à Daragan, à partir de 11 h du soir.
Il pensa qu'Annie lui aurait donné des explications si elle était encore vivante. Plus tard, quand son livre avait été publié et qu'il avait eu la chance de la revoir, il ne lui avait posé aucune question à ce sujet. Elle n'aurait pas répondu. Il n'avait pas non plus évoqué la chambre rue Laferrière, ni la feuille pliée en quatre où elle avait écrit leur adresse. Il l'avait égarée, cette feuille. Et même s'il avait pu la garder sur lui pendant 15 ans et s'il la lui avait montrée, elle aurait dit « Mais mon petit Jean, ce n'est pas du tout mon écriture. »
L'homme de l'aéro ignorait pourquoi elle avait fait de la prison. Son frère Pierre ne lui avait donné aucun détail là-dessus.
Mais Daragan se souvenait que la veille de leur départ de Saint-Leu-la-Forêt, elle paraissait nerveuse. Elle avait même oublié de venir le chercher à 4 h, à la sortie de l'école, et il était revenu seul à la maison.
Mais cela ne l'avait pas vraiment inquiété. C'était facile, il suffisait de suivre la rue tout droit.
Annie téléphonait dans le salon. Elle lui avait fait un signe de la main et elle avait continué de parler au téléphone. Le soir, elle l'avait emmenée dans sa chambre et il la regardait remplir une valise avec des vêtements. Il craignait qu'elle ne le laisse seul dans la maison. Mais elle lui avait dit que demain, ils iraient tous deux à Paris. La nuit, il avait entendu des voix dans la chambre d'Annie. Il avait reconnu celle de Roger Vincent. Un peu plus tard, le bruit du moteur de la voiture américaine s'éloignait et finissait par s'éteindre. Il avait peur d'entendre démarrer sa voiture à elle. Et puis, il s'était endormi.
Une fin d'après-midi, qu'il sortait de l'aéro après avoir écrit 2 pages de son livre, les travaux dans l'ancien hôtel s'interrompaient vers 6 h du soir, il se demanda si les promenades qu'il avait faites 15 ans plus tôt en l'absence d'Annie l'avaient mené jusqu'ici.
Elles n'avaient pas dû être très nombreuses, ces promenades, et plus brèves que dans son souvenir.
Annie avait-elle vraiment laissé un enfant déambuler seul dans ce quartier ?
L'adresse écrite de sa main sur la feuille de papier pliée en 4, un détail qu'il n'avait pas pu inventer, en était bien la preuve. Il se rappelait avoir suivi une rue au bout de laquelle il voyait le Moulin Rouge. Il n'avait pas osé aller plus loin que le terre-plein du boulevard de peur de se perdre. En somme, il aurait suffi de quelques pas pour qu'il se retrouve à l'endroit où il était maintenant. Et cette pensée lui causa une drôle de sensation, comme si le temps était aboli. Il y avait de cela 15 ans, il se promenait seul, tout près d'ici, sous un soleil de juillet, et maintenant on était en décembre. Chaque fois qu'il sortait de l'aéro, il faisait déjà nuit. Mais pour lui, brusquement, les saisons et les années se confondaient. Il décida de marcher jusqu'à la rue Laferrière. Le même itinéraire que celui d'autrefois. Tout droit. Toujours tout droit. Les rues étaient en pente. Et à mesure qu'il descendait, il avait la certitude de prendre le temps à rebours. La nuit s'éclaircirait au bas de la rue Fontaine. Il ferait jour. Et de nouveau, il y aurait ce soleil de juillet. Annie n'avait pas simplement écrit l'adresse sur le papier plié en quatre, mais les mots « pour que tu ne te perdes pas dans le quartier » de sa grande écriture. Une écriture à l'ancienne que l'on n'apprenait plus à l'école de Saint-Leu-la-Forêt. La pente de la rue Notre-Dame-de-Lorette, aussi raide que la précédente, il suffisait de se laisser glisser. Un peu plus bas, à gauche. Une seule fois tous les deux, ils étaient rentrés dans leur chambre quand il faisait nuit. C'était la veille de leur départ en train. Elle lui posait une main sur le crâne ou sur la nuque, un geste protecteur pour s'assurer qu'il marchait bien à côté d'elle. Il revenait de l'hôtel Terrasse, au-delà du pont qui surplombe le cimetière. Ils étaient entrés dans cet hôtel et il avait reconnu Roger Vincent dans un fauteuil, au fond du hall. Il s'était assis avec lui. Annie et Roger Vincent parlaient ensemble. Ils oubliaient sa présence. Il les écoutait sans comprendre ce qu'ils disaient. Il parlait trop bas. À un moment, Roger Vincent répétait la même chose. Il fallait qu'Annie prenne le train et qu'elle laisse sa voiture au garage. Elle n'était pas d'accord. Mais elle avait fini par lui dire « Oui, tu as raison, c'est plus prudent. » Roger Vincent s'était tourné vers lui et il avait souri. « Tiens, c'est pour toi. » Et il lui avait tendu un carton bleu marine en lui disant de l'ouvrir, ton passeport. Ils s'étaient reconnus sur la photo, l'une de celles qu'ils avaient prises dans la cabine photomaton, où, chaque fois, l'éclat trop vif de la lumière lui faisait cligner les yeux. Il pouvait lire sur la première page son prénom et sa date de naissance. Mais le nom de famille n'était pas le sien, c'était le nom d'Annie, Astran. Roger Vincent lui avait dit d'une voix grave qu'il devait porter le même nom que la personne qui l'accompagnait, et cette explication lui avait suffi. Au retour, Annie et lui marchaient sur le terre-plein du boulevard. Après le Moulin Rouge, ils avaient suivi une petite rue à gauche, au bout de laquelle se dressait la façade d'un garage. Ils avaient traversé un hangar, à l'odeur d'ombre et d'essence. Tout au fond, une pièce vitrée. Un jeune homme se tenait derrière un bureau. Le même jeune homme qui venait autrefois à Saint-Leu-la-Forêt et l'avait emmené un après-midi au cirque Medrano. Il parlait de la voiture d'Annie que l'on voyait là-bas, garée le long du mur. Il était sorti du garage avec elle. Il faisait nuit et il avait voulu lire les mots de l'enseigne lumineuse « Grand garage de la place Blanche ». Ces mots qu'il lisait de nouveau 15 ans plus tard, penché à la fenêtre de sa chambre du 11 rue Coustou. Il projetait sur le mur en face de son lit des reflets en forme de treillage quand il avait éteint la lumière et qu'il essayait de trouver le sommeil. Il se couchait tôt, à cause des travaux qui reprenaient vers 7 heures du matin. Il lui était difficile d'écrire après une mauvaise nuit. Dans son demi-sommeil, il entendait la voix d'Annie, de plus en plus lointaine, et il ne comprenait qu'un bout de phrase. « Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. » Au réveil, dans cette chambre, il se rendait compte qu'il lui avait fallu 15 ans pour traverser la rue. Cet après-midi de l'année dernière, le 4 décembre 2012, il avait noté la date sur son carnet, l'embouteillage se prolongeait et il demanda au chauffeur de taxi de prendre à droite la rue Coustou. Il s'était trompé quand il croyait voir de loin l'enseigne du garage puisque le garage avait disparu. Et aussi sur le même trottoir, la devanture de bois noir du néant. Des deux côtés, les façades des immeubles paraissaient neuves, comme recouvertes d'un enduit ou d'une pellicule de cellophane d'un blanc qui avait effacé les fissures et les taches du passé. Et derrière, en profondeur, on avait dû se livrer à une taxidermie qui achevait de faire le vide. Rue Puget, un mur blanc remplaçait les boiseries et le vitrail de l'aéro, de ce blanc neutre, couleur de l'oubli. Lui aussi, pendant plus de 40 ans, il avait fait un blanc sur la période où il écrivait ce premier livre et sur l'été où il se promenait seul avec, dans sa poche, la feuille pliée en quatre. Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. Voilà, nous avons donc terminé pour aujourd'hui la lecture de ce roman de Patrick Modiano, que nous terminerons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon. Vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.